Anatole France, le chat maigre. Les bourrasques de novembre fouettaient depuis 3 jours le faubourg populeux que les premières ombres de la nuit revêtaient déjà. Des flaques d'eau miroitaient sous les becs de gaz. Une boue noire, délayée par les pas des hommes et des chevaux, couvrait le trottoir et la chaussée. Les ouvriers, portant leurs outils sur le dos, et les femmes, revenant de chez le traiteur avec des portions de bœuf entre deux assiettes, marchaient sous la pluie en tendant le dos dans la morne attitude des bêtes de somme. M. Godet Laterrasse, serré dans ses vêtements noirs, montait avec le peuple la voie boueuse qui mène aux fêtes de Montmartre. Sous son parapluie, qui, fatigué par d'anciens orages, palpitait au vent comme l'aile d'un gros oiseau blessé, M. Godet Laterrasse portait haut la tête. Sa mâchoire était proéminente et son front déprimé. Sa face prenait sans peine une attitude horizontale et ses yeux pouvaient, sans se lever, voir à travers les trous de taffetas le ciel fuligineux. Marchant tantôt avec une hâte fébrile, tantôt avec une lenteur songeuse, il s'engagea dans une impasse noire et boueuse, longea les lattes moisies de la charmille effeuillée qui borde l'établissement des bains, et après un moment d'hésitation, entra dans une gargote où des gens vêtus comme lui, d'un drap noir, minces et fripés, mangeaient silencieusement dans une atmosphère de graisse tiède, compliquée d'une écœurante odeur de barrage due au voisinage des bains. M. Godet Laterrasse salua la dame du comptoir selon sa méthode, qui consistait à renverser la tête en arrière avec un sourire grave. Puis, ayant accroché à la patère son chapeau luisant et sillonné de cassures, il s'assit devant une petite table de marbre gras et lissa ses cheveux par le geste qui accompagnait d'ordinaire ses méditations. Le gaz, qui chantait en brûlant, éclairait les cheveux laineux de cet homme, sa face de mulâtre, dont la peau à demi lavée par la neige et l'eau des hivers d'Europe, semblait sale, et jusqu'à ses mains ridées, dont les ongles plats étaient marqués à l'extrémité de virgules laiteuses. Sans appeler le garçon, sans regarder du côté du comptoir, il tira de sa poche un journal qu'il lut de très haut. Il interrompit à peine sa tâche pour manger de cette tête de veau qui avait déjà apparu par portions devant tous les convives silencieux et résignés. Ceux-ci s'évanouissaient l'un après l'autre dans l'ombre et dans la pluie. Un seul, édenté et morne, s'attardait encore sur des raisins secs. Et le mulâtre, ayant vidé son carafon, au fond duquel restait un résidu de lie et d'écorce, s'essuya la bouche, plia sa serviette, mit son journal dans sa poche, contre sa poitrine, avec le geste d'un lutteur qui étreint son adversaire, se leva, décrocha son chapeau et fit un pas vers la porte. Il s'élançait déjà dans la nuit humide quand un petit homme violacé, et tout suintant de graisse, déboucha d'une porte bâtarde, noircie par des mains grasses, et s'avança dans la salle en boitant. M. Godet Laterrasse fit au patron du restaurant son salut en arrière. « Bonjour, M. Godet, » dit l'homme gras. « Oh, on a bien un mauvais temps, et qui me fait beaucoup de mal. À propos, M. Godet, si vous pouvez demain me donner un petit acompte, vous me feriez plaisir. Je suis pas homme à vous tourmenter, vous le savez bien, mais j'ai un fort paiement à la fin de cette semaine. » M. Godet Laterrasse répondit avec un accent à la fois oratoire et enfantin, et sans prononcer les airs, qu'on lui devait de l'argent, qu'il irait sans doute le lendemain même chercher une somme quelconque chez son éditeur ou au journal, qui ne savait vraiment pas comment il avait pu oublier la note du restaurateur et que c'était une bagatelle. L'homme gras ne parut pas ébloui par cette promesse. Il reprit d'un ton dolent. Ne m'oubliez pas, monsieur Godet. Bonsoir, monsieur Godet. Monsieur Godet, la terrasse, entra à son tour dans les ténèbres rayées de pluie, où s'étaient dissipés jusqu'au dernier les maigres pensionnaires de l'impasse du Baigneur. Tous les chemins de la terre étaient ouverts devant lui. Il prit celui des buttes, que la tempête assiégeait et que noyait une pluie obstinée. Un tourbillon de vent voulut déraciner le mulâtre. Un souffle traître prit son parapluie en dessous et le retourna brusquement. M. Godet de la terrasse rétablit la concavité première de cet appareil domestique, mais le taffetas, rompu de toutes parts, flotta comme un drapeau noir sur l'armature dénudée. M. Godet de la terrasse gravissait, sous ce pavillon grotesque et sinistre, les roides escaliers du passage Cotin, changés en torrents. Il n'entendait que le claquement de ses semelles sur l'eau et les dialogues mystérieux des vents. Visible pour lui seul, les ombres vagues d'un éditeur et d'un directeur de journal fuyaient bien loin devant lui. Il monta 80 marches et s'arrêta devant une petite porte, sous une lanterne en potence qui clignait comme un œil malade et dont la poulie grinçait. Entré dans la maison, il glissa furtivement devant la loge du concierge. Mais quelques coups frappés contre la cloison le rappelèrent. Il ouvrit la porte vitrée avec une sorte d'angoisse. Une voix aigre et sans sexe, sortie d'une alcôve, l'avertit qu'il y avait une lettre pour lui sur la commode. Il prit la lettre, descendit 5 marches gluantes et entra dans sa chambre. Aux premières lueurs de sa bougie, il examina d'un œil soupçonneux l'enveloppe de la lettre. C'est que, depuis longtemps, la poste ne lui apportait rien d'heureux. Mais quand il eut rompu le cachet et commencé de lire, il découvrit ses dents blanches par un sourire naïf. Sa nature enfantine, flétrie par la misère, s'égayait à la moindre clémence des choses. En ce moment-là, il était heureux de vivre. Il retourna à toutes ses poches pour recueillir une poussière de tabac mêlée de croûtes de pain et de flocons de laine dont il boira sa pipe courte. Puis, s'étant coulé voluptueusement sous les draps sales de son lit canapé, il se mit à chantonner à mi-voix la lettre qui l'avait fait sourire. « Cher monsieur, je suis de passage à Paris avec mon fils Rémi que j'amène de Nantes où il a fait ses études. J'ai songé à vous pour le préparer au baccalauréat. Une éducation comme dans le reste, je suis partisan des idées avancées. Voulez-vous venir déjeuner avec nous demain samedi à 8 h au Grand Hôtel pour nous entendre? Tout à vous, à Sainte-Lucie. » Monsieur Godet de la terrasse, ayant terminé le chant de cette lettre, alluma sa pipe et s'enveloppa de fumée et de rêve. Quelle caresse de la fortune que cette lettre inattendue! Il avait connu à Paris, vers la fin de l'Empire, chez quelques notabilités du monde démocratique, M. Sainte-Lucie, qui lui avait même rendu visite. C'était, songeait le mulâtre, oh, c'était du temps où j'écrivais des articles pour la grande encyclopédie universelle. J'habitais alors une belle chambre meublée dans un hôtel de la rue de Seine. Je dois même avoir encore la carte de cet aimable visiteur. Étendant son bras maigre et brun, il saisit sur la cheminée une vieille boîte à cigares pleine de papiers qui se mit à fouiller. On avait sans doute, en déménageant, renversé d'un coup dans cette boîte tout le contenu d'un tiroir lentement rempli, car les papiers qu'il trouva les premiers étaient les plus anciens. Il ouvrit une enveloppe qui ne lui rappelait que des souvenirs lointains et confus. « Ah » songeait-il, « c'est une lettre de mon pauvre frère qui vend du café à Saint-Paul. Il n'était pas attiré vers Paris, lui. Il n'était pas travaillé comme moi par l'idée. » Et M. Godet la terrasse lut au hasard. Tu as dû apprendre par les journaux qu'un cyclone a passé sur Bourbon et détruit toutes les plantations. Je me suis mis dans le guano. Et toi, écris-tu toujours des blagues dans les canards parisiens ? Ah, le malheureux, murmura M. Godet la terrasse, accoudé sur son oreille. Et déployant une autre lettre de la même main, il lut encore. Je ne puis t'envoyer d'argent parce que les cafés ayant donné, j'ai dû employer tous mes capitaux disponibles à acheter ferme pendant que le marché était encombré de produits à vil prix. J'ai fait une magnifique affaire. Tu comprendras donc qu'il m'est impossible de t'envoyer de l'argent. Durand, qui revient de Paris, m'a dit que tu donnais dans des réunions publiques et dans les émeutes de boulevard. Tu te feras casser la tête et tes habits diront que tu laisses la police. Quand tu seras fatigué de ton rôle de jobard, reviens à Bourbon. Tu garderas mes magasins. C'est un métier de paresseux qui te convient parfaitement. Garder ces magasins, quel blasphème ! S'écria M. Godet la terrasse. Et il rejeta la lettre impie. Le fond de la boîte était bourré de convocations à des enterrements civils, de jugements et d'assignations, de factures et de petits papiers découpés dans des journaux. Sur un de ceux-là, au revers duquel était une annonce de pédicure avec un pied nu sur un tabouret, il relut ces lignes qui réveillèrent un sourire sur sa face naïve. Un de nos plus vaillants esprits, un des plus hardis pionniers du progrès, M. Godet la terrasse, créole de la Réunion, met la dernière main à son grand livre de la régénération des sociétés par la race noire. Un des principaux chapitres de cet important ouvrage paraîtra incessamment dans l'entonnoir littéraire. Hélas, pensa M. Godet la terrasse, quand le chapitre allait paraître, l'entonnoir littéraire mourut. Que de journaux périssent ainsi dans leurs fleurs. Enfin, il trouva dans une poignée de cartes de visite la carte qu'il cherchait. Il la considéra attentivement et la relut. Alidor Sainte-Lucie, avocat, ancien ministre de l'Instruction publique et de la Marine, membre de la Chambre des députés, président de la Commission artistique haïtienne, à Paris au Grand Hôtel. Et dans la fumée qui remplissait la chambre, M. Godet la terrasse représenta le gigantesque mulâtre qui venait d'Haïti plein d'or et de sourires. Puis il souffla la bougie et s'endormit. Ses rêves furent peuplés de spectres. L'ombre du cabaretier et de l'impasse du baigneur s'avançait en boitant et répétait avec une douceur terrible « Passez à moi, M. Godet !» Il était près de 9 heures et il pleuvait encore quand une lueur de jour entra dans la chambre. C'était le reflet dégoûtant d'une lumière plusieurs fois soufflée, souillée avant d'arriver jusque-là. La chambre n'avait de vue que sur le mur de soutènement de la maison voisine, qui dominait de ses 5 étages de plâtre tous les toits du passage. Ce mur de bois long bombé, lézardé, crevé, suintant, verdâtre, et terminé par la galerie de briques d'une terrasse à l'italienne, s'élevait de 5 ou 6 mètres au-dessus de la chambre de M. Godet la terrasse et la revêtait d'une ombre éternelle. La fenêtre n'était séparée du mur que par une allée marécageuse, large de 2 pas, semée de feuilles de salade, de coquilles d'œufs et de débris de cerf-volant. Le mulâtre, à son réveil, regarda les vitres ruisselantes et souleva ses bottes lourdes dont les semelles avaient laissé une trace humide sur le parquet. Il les chaussa pourtant, ayant achevé sa toilette austère et saisi les ruines de son parapluie, il sortit de sa chambre. En passant devant la loge d'où sortaient des grognements confus, « Madame Alexandre, dit-il, je m'occupe de votre petit compte. » Il monta les 10 plus hautes marches du passage Cotin, longea dans un fleuve de boue la façade désolée du chalet suisse et les chantiers de l'église du Vœu National. Au bas de la rue Lepic, il s'arrêta court pour ne pas marcher sur deux bras de paille collés en croix par la pluie du trottoir devant la boutique d'un emballeur. Ayant conjuré ce péril, car il ne doutait pas que marcher sur une croix ne fût un présage de malheur, il reprit sa grandeur d'âme et releva sa tête sublime. Il s'avançait en conquérant intellectuel vers le cœur de Paris et portait haut l'armature à huit pointes de son parapluie dévasté qui semblait l'arme compliquée d'un guerrier sauvage. M. Alidor Sainte-Lucie, fils d'un riche négociant de Port-au-Prince, fit son droit à Paris et retourna à Haïti pour assister au sacre de Soulouque, couronné empereur sous le nom de Faustin Ier. Homme de couleur et riche, il avait tout à craindre de sa majesté noire. Il alla brusquement au-devant du danger et se fit remarquer au palais impérial par son zèle à soutenir la politique noire du souverain. Nommé procureur général près la cour impériale de Port-au-Prince, il fit fusiller sans méchanceté quelques-uns de ses concitoyens. Il accepta de l'empereur le portefeuille de l'instruction publique et celui de la marine, mais croyant croître dans l'ombre une opposition énergique, il prit un congé et alla faire une promenade en France. De Paris, il s'associa par de chaleureuses lettres à la Révolution qui mit fin aux gaietés sanglantes de l'Empire noir et revint à Haïti pour se faire nommer membre de la Chambre des députés. Son premier acte dans l'Assemblée fut de déposer un projet tendant à l'érection d'un monument expiatoire consacré aux mânes des victimes de la tyrannie. Il y avait quelques-unes de ces victimes auxquelles l'ancien procureur impérial devait bien un tombeau. Le projet fut pris en considération, la proposition votée, et le citoyen Alidor Sainte-Lucie nommé président de la commission chargée de faire exécuter cette œuvre nationale. M. Alidor comprit tout le parti qu'il pouvait tirer de cette présidence. Pour peu qu'on fusillât dans l'île, il prenait son passeport et s'en allait demander aux artistes de Paris quelques projets de monuments expiatoires. Il adorait Paris à cause des petits théâtres et des cafés politiques. Après 20 ans, la commission artistique fonctionnait encore. M. Alidor Sainte-Lucie était alors un très beau mulâtre, colossal et souple, portant bien sa large face cuivrée. Il avait, malgré son nez épaté, une grande mine, surtout depuis que le sommet de son front, dégarni de cheveux, brillait comme un bronze clair. Sans dénier rien dissimuler de sa robuste vieillesse, il portait, taillé de près au ciseau, sa barbe grisonnante. Soigneux de sa personne, il aimait les gilets blancs, les escarpins vernis et s'imprégnait de parfums à la fois capiteux et fades. C'est ainsi parfumé et sa puissante encolure bien prise dans une jaquette de coupe anglaise qu'il se promenait de long en large dans la chambre d'hôtel en attendant le précepteur, tandis que son fils crayonnait des bons hommes sur une couverture de livres et que le garçon de service dressait près du feu une table de 3 couverts. Les meubles étaient encombrés par les maquettes, les esquisses, les ébauches, les photographies, les plans, les épures, les lavis et les devis du monument commémoratif des victimes de la tyrannie. Il y avait sur la console une petite pyramide de plâtre peint, couverte de palmes d'or, et sur le secrétaire une colonne de terre cuite, surmontée d'une espèce de singe ailé avec cette inscription sur le socle « Au génie de la liberté noire ». Une photographie posée sur la cheminée, contre la glace, représentait une négresse debout devant un sarcophage sur lequel elle déposait un rouleau de papier portant ces simples mots « Commission artistique, Monsieur Saint-Lucie, président ». Rien de plus. À terre, une main de fonte à demi ouverte, une main géante sortait d'un rideau comme d'une manche, à sa taille et portait au poing cette étiquette « Détail d'exécution, projet 17ED ». 3 petits pains dorés reposaient sur les serviettes. Monsieur Sainte-Lucie regarda la pendule. Soit que la croûte des pains vernis au blanc d'œuf eût réveillé ses appétits, soit qu'il craignit d'attendre ses yeux de velours qui, tout à l'heure, contemplaient avec une si douce lumière sous leurs paupières un peu tendues, jetèrent subitement une lueur fauve. Mais ils redevinrent caressants quand M. Godet Laterrasse apparut sous la portière écartée par le garçon de service. On ne vit d'abord qu'un menton surmontant une longue pomme d'Adam échappée d'une cravate de cotonnade blanche. Monsieur Godet Laterrasse saluait. « Mon fils Rémy, » dit Monsieur de Sainte-Lucie en présentant le jeune homme, qui, consentant à laisser un croquis inachevé, s'approcha avec un hanchement paresseux. C'était un beau garçon d'un teint olivâtre très pur. Il roulait les yeux ennuyés et semblait tendre au hasard sa grosse bouche sensuelle. On se mit à table. M. Sainte-Lucie était deux fois plus large que M. Godet Laterrasse. Le mulâtre d'Haïti avait un teint chaud et doré qui semblait plus riche encore auprès de cette couleur de suie mal essuyée dont l'autre était barbouillée. Le mulâtre de Bourbon était chétif, fripé, crotté, mais l'expression d'emphase naïve et d'orgueil enfantin empreinte sur son visage inspirait pour lui cette pitié sympathique qui s'attache aux chiens savants et aux génies malheureux. L'affaire qui les réunissait fut traitée entre les rognons sautés et les petits pois au sucre. M. Godet Laterrasse provoqua des explications. « Bien, bien, mon ami, » dit-il à son futur élève en lui tapant sur l'épaule. « Nous allons donc prendre nos grades dans la vieille université ?» M. Alidor, ainsi amorcé, dit en émiettant son pain avec nonchalance, « Comme je vous l'ai écrit, mon cher Godet, et par parenthèse, j'ai eu du mal à trouver votre adresse. » C'est Brandt, vous savez Brandt, le tailleur, qu'il a découverte par le plus grand des hasards. Il vous cherchait aussi à ce qu'il paraît. C'est possible, dit M. Godet Laterrasse, en faisant dans le vide le geste d'écarter quelque chose. Alors, comme je vous l'ai dit, je compte sur vous pour préparer ce gaillard-là au baccalauréat et en faire un homme. M. Godet Laterrasse redressa son buste contre le dossier de sa chaise, plaça son visage horizontalement et dit « Avant tout, mon cher Sainte-Lucie, je dois vous faire ma profession de foi. Je suis inébranlable sur les principes. Je suis l'homme de fer qu'on brise mais qu'on ne plie pas. » « je sais, » dit M. de Sainte-Lucie en continuant d'émietter son pain. L'éducation que je donnerai à monsieur votre fils sera une éducation essentiellement libre. Ben, je sais, je sais. C'est le baccalauréat civique que je ferai passer glorieusement à votre Rémy. Je préparerai en lui moins encore le lauréat de l'université que le législateur de la République haïtienne. Mais que m'importe à moi cette vieille fée pédante qu'on nomme l'université? L'ancien ministre, homme éloquent mais pratique, lui fit signe du sourcil de ne pas parler ainsi devant son élève. Mais le précepteur, libre, emporté par la sublimité de ses propres idées, « L'université, s'écria-t-il, mais c'est le monopole. L'université, c'est la routine. L'université, c'est l'ennemi. Guerre à l'université !» Puis, posant la main sur l'épaule du jeune mulâtre, plus indifférent que surpris. Mon ami, si je vous prépare au baccalauréat, je vous enseignerai les vérités primordiales. Et quand, au sortir de mes mains, vous vous présenterez en Sorbonne devant les examinateurs, vous serez leur juge encore plus qu'ils le seront les vôtres. Vous pourrez dire aux carreaux et aux taillandiers, j'ai des principes et vous n'en avez pas. C'est un homme de fer, c'est Godet Laterrasse qui a formé mon esprit. Ha ha, ils me connaîtront un jour, ces messieurs. » Pendant ce discours, le jeune Rémy, très tranquille, tirait subrepticement de sucriers des morceaux de sucre qu'il fourrait dans ses poches. Monsieur Alidor était naturellement enclin à goûter l'éloquence. Une semblable préparation au baccalauréat lui semblait belle, mais périlleuse. Fort entêté par caractère, il ne démordit pas de son idée de confier son fils au créole de Bourbon. « Rémi, dit-il en tirant nonchalamment un louis de sa poche, va chercher les cigares en bas et dis que c'est pour moi. » Resté seul avec son hôte, il émietta encore son pain et resta silencieux. Il avait une façon spéciale de se taire qui était mystérieuse et imposante. Puis, de sa voix douce d'homme fort, il représenta au futur précepteur qu'il s'agissait d'une préparation au baccalauréat, c'est-à-dire d'une entreprise essentiellement pratique, que les programmes devaient être suivis à la lettre et qu'en somme, il était question de grec et de latin, bien plus que de vérité primordiale. « Parfaitement, parfaitement, » répondit l'homme de fer. Il lui fut demandé s'il avait déjà professé. Sa réponse fut vague. On dut toucher la question d'argent. L'ancien ministre pria le précepteur d'accepter des appointements mensuels de 200 francs. Mais M. Godet la terrasse, la tête totalement révulsée, fit le geste d'écarter ses bagatelles. Rémi revint avec des cigares. Un très bel homme, svelte, et dont la barbe d'or descendait sur la poitrine, entra dans la chambre avec lui et n'ôta pas le petit chapeau mou qu'il portait en manière de toque sur sa nuque chevelue. « Oh, soyez le bienvenu, Labanne, » dit M. de Saint-Lucy sans se lever. « Voulez-vous un cigare ?» Mais Labanne, sans rien répondre, tira de sa poche une pipe d'ambre et d'écume et une blague aux armes de Bretagne. Puis il fit le tour de la pièce et examina en connaisseur la photographie placée sur la cheminée. Enfin, jetant un regard de côté sur la colonne de terre cuite, « Quel est, dit-il, le fumiste qui vous a fourni ce modèle de tuyau de poêle ?» Il se tourna ensuite vers la pyramide dorée, affecta la curiosité, cligna de l'œil et dit ben, « On a oublié de faire une fente pour couper les sous. » Les autres ne comprenaient pas. Il ajouta « Madame, ça ne peut être qu'une tirelire, cette machine-là. »« Que voulez-vous ? » répondit philosophiquement M. Sainte-Lucie. « Je prends ce qu'on me donne. » Vous ne m'apportez pas votre projet, vous, Labanne ? Oh, j'y travaille, répondit le sculpteur. Pas plus tard qu'hier, j'ai lu dans le journal de médecine un article des plus curieux sur le pigmentum de la race noire. Et j'ai acheté ce matin, sur le quai Voltaire, chez un bouquiniste de mes amis, un traité de la constitution géologique des Antilles. Et pourquoi faire ? Demanda M. Sainte-Lucie, absolument dérouté, bien qu'il connût son homme. Bon, si je veux exécuter mon projet de sculpture, répondit Labanne d'un ton dédaigneux, il faut qu'avant de toucher seulement à la glaise, j'ai lu 1500 volumes. Tout est dans tout. C'est un procédé artificiel et coupable que de traiter isolément un sujet quelconque. « Tiens, vous voilà, Godet, par quel hasard, je ne vous avais pas aperçu. » Le mulâtre de Bourbon, accoudé à la tablette de la cheminée et la main droite passée entre deux boutons de sa redingote, sourit amèrement. Le sculpteur, ayant allumé sa pipe, poursuivit. « Oh, je ne suis pas une force de la nature, une force brute, moi. Je ne suis pas comme l'oiseau qui a pondu ce singe-là. » Et il désignait du tuyau de sa pipe le génie de la liberté noire. « Je suis une intelligence, une conscience, et je mets une pensée dans ma sculpture. » Monsieur Alidor, Sainte-Lucie, approuva de la tête. Mais il insista pour obtenir du sculpteur un simple croquis, une esquisse qu'il voulait soumettre à la commission. Il devait partir pour Haïti dans une huitaine de jours. Labanne, couché sur le canapé, était perdu dans une méditation profonde. Et enfin, après avoir secoué la cendre de sa pipe et craché sur le tapis, il contempla la rosace du plafond et dit « Bon, de quel endroit créons-nous des êtres imaginaires ? Phidias ou Michel-Ange ou machin fait une figure qui a l'apparence de la vie, qui s'impose aux yeux, qui pénètre les imaginations. C'est l'Athénée du Parthénon, le Moïse ou la nymphe d'Anière. On en parle, on en rêve, et voilà un être de plus dans le monde. Mais que vient-il y faire ? Il vient perturber les intelligences, corrompre les cœurs, égarer les sens et se moquer du public. Toute œuvre d'art, toute création du génie humain est une dangereuse illusion et une tromperie coupable. Les sculpteurs, les peintres, les poètes sont des menteurs magnifiques et des coquins sublimes, rien de plus. Moi qui vous parle, j'ai été pendant 6 mois amoureux comme une bête de l'antiope du salon carré. C'est-à-dire que pendant 6 mois, ce scélérat de Corrège s'était moqué de moi. Connaissez-vous mon ami Branchu, le moraliste ? Il est laid, mais il l'ignore. Il est pauvre et plein de génie. Il sait le grec à faire l'étonnement des cafés. Il a lu Hegel. Il vit d'un petit pain et boit aux bornes fontaines. Ayant terminé son repas d'oiseau, il écrit des choses sublimes dans les jardins publics, ou, s'il pleut, sous les portes cochères. Il vient, quand il y pense, couché dans mon atelier. Il écrit même, il a même écrit une nuit sur la muraille, un commentaire très subtil et très savant du Phédon. Oui, tel est Branchu. L'an passé, je lui prêtai un habit et je le conduisis chez une princesse russe dont j'avais dû faire le buste. Mais elle voulait ce buste en marbre et je ne le voyais qu'en bronze. On ne peut réaliser que ce qu'on voit, et le buste ne fut pas fait. La princesse cherchait un professeur de littérature pour sa fille Fiedora, qui était très belle. Alors je proposai Branchu, qui fut agréé. Sur ma recommandation et sur sa mauvaise mine, on lui paya 1 mois d'avance. Il s'acheta 2 chemises, loua une chambre en garnie et connut le cervelas. À la 6e leçon, tandis qu'il expliquait le mécanisme de l'épopée homérique, il pinça furieusement à la taille Mademoiselle Fedora, qui s'enfuit en poussant des cris aigus. Le moraliste attendit, prêt à réparer sa faute. Il eût épousé sa noble élève, s'il eût fallu. Mais on le jeta à la porte. Je le trouvai le soir dans mon atelier. « Hélas !» s'écria-t-il en pleurant. « C'est Saint-Preux qui m'a perdu, ô Julie, ô Jean-Jacques !» Ainsi donc, Rousseau avait écrit son roman magnifique et passionné, et il avait créé sa Julie aimable, enfante faible et tombée avec gloire, que pour faire une sottise à mon ami Branchu, le brancheur moraliste. Monsieur Alidor Sainte-Lucie contint un bâillement. Son fils, les 2 poings dans les joues, écoutait comme au théâtre. Monsieur Godet, la terrasse, l'œil ardent et la poitrine bombée, préparait une réplique foudroyante. Mais la banne se leva, s'approcha du guéridon, y prit un numéro de journal, et tandis qu'il en déchirait en morceaux pour allumer sa pipe, il suivait de l'œil, avec son instinct de grand liseur, les lignes imprimées. « Dis donc, Sainte-Lucie, » demanda-t-il, « est-ce que vous croyez à la démocratie, vous ?» À ces mots, M. Godet Laterrasse fit, en se redressant, le bruit sec d'un pistolet qu'on arme. Mais l'ancien ministre ne répondit que par un sourire énigmatique. Labanne fit sa profession de foi. Il aimait les aristocraties. Il les voulait fortes, magnifiques et violentes. Elles seules, disait-il, avaient fait fleurir les arts. Il regrettait les mœurs élégantes et cruelles d'une noblesse militaire. Quelle époque mesquine que la nôtre, ajouta-t-il. En privant la politique de ses deux attributs nécessaires, le poignard et le poison, vous l'avez rendue innocente, niaise, bête, bavarde et bourgeoise. Faute d'un Borgia, la société se meurt. Vous n'aurez ni statue de style, ni palais de marbre, ni courtisanes éloquentes et magnanimes, ni sonnets ciselés, ni concerts dans les jardins, ni coupe d'or, ni crime au ski, ni péril, ni aventure. Vous serez heureux, platement, bêtement, en crevé. Ainsi soit-il. Depuis quelques instants, M. Godet la terrasse faisait des petits mouvements saccadés, comme un homme qui se contient mal. À merveille ! S'écria-t-il, à merveille ! Vous avez beaucoup d'esprit, monsieur Labanne. Mais sachez-le, il y a des railleries qui sont des blasphèmes. Il prit son chapeau, serra la main à son élève et entraîna dans l'antichambre M. Alidor à qui il avait quelques mots à dire. Labanne entendit tinter de l'argent et M. Alidor reparut. Quel naïf ! Lui dit Labanne. Mais il n'est pas méchant. Chut ! Fit l'autre. Et il dit quelques mots à l'oreille de Labanne qui répondit. Bon, mais si j'avais prévu que vous eussiez besoin d'un précepteur, je vous aurais envoyé mon ami Branchu, le moraliste. Bon, je retourne au quartier. Adieu. Il désignait ainsi le quartier par excellence, le quartier latin. Monsieur Sainte-Lucie pria le sculpteur d'indiquer à Rémy, qui ne connaissait pas à Paris, un hôtel convenable dans les environs du Luxembourg. Déjà Labanne, qui caressait sa barbe rutilante, et Rémy, dont la taille par un caractère de race semblait dévissée, descendaient côte à côte l'escalier doré de l'hôtel, quand M. Sainte-Lucie, penché sur la rampe, rappela son fils et lui dit oh, « Je t'avertis de suite, de peur de l'oublier, que très probablement je n'irai pas voir le général Télémaque. Mais en lui rendant visite, tu ne me déplairas nullement et tu feras plaisir à ta mère. Télémaque demeure à Courbevoie, près de la caserne. Adieu, adieu !» Rémy se rappelait très vaguement sa maison natale de Port-au-Prince, cet hôtel seigneurial de style Louis XVI, plein de statues mutilées, d'emblèmes effacés à demi, ce vestibule crevé, effondré, planté de bananiers, ces lourds fauteuils d'acajou à tête de sphinx dans lesquels il dormait à l'ombre dans le grand silence du midi. La ville basse, lumineuse, bigarrée, amusante comme un grand bazar, et le magasin de la marraine Olivette. Que de fois, caché derrière des caisses, il avait volé à la négresse des bananes ou des sapouilles. Il se rappelait sa mère, dont les yeux de braise, le nez impérieux, la bouche avide et la magnifique poitrine de bronze, s'échappant d'un corsage de mousseline blanche, avaient imprimé leur image dans la mémoire de l'enfant. Que de fois il l'avait vue, empreinte d'un parfum violent, la tête renversée en arrière, les yeux noyés. Exaspéré par quelques réponses brèves et dédaigneuses, M. Alidor, qui un jour se jeta sur elle en grinçant des dents et abattit sa canne sur les plus belles épaules des Antilles. Mais Rémy avait vu bien d'autres choses. Il avait vu le bombardement et l'incendie de Port-au-Prince, les pillages, les massacres, les exécutions, et encore des massacres et des exécutions. Il avait vu sa marraine Olivette gisant assommée au milieu de ses tonneaux défoncés entre ses assassins ivres-morts de whisky. C'est vers cette époque qu'ayant fait une longue traversée, il débarqua un soir dans une villa, dans une ville magnifiquement éclairée. La France lui plut tout d'abord, fut mise à Nantes dans une pension de la rue du Château, Là, il traîna de banc en banc, grelottant sans cesse, une vie monotone et ennuyée. Pendant les longues études, il suçait des dragées, dessinait des caricatures. Chaque jeudi et chaque dimanche de l'année, les élèves, déroulés d'eux de front en longue file, faisaient une promenade sous les vieux ormeaux de la fosse, au bord de la Loire, large et blonde. Il n'aimait pas ses courses au vent et à la pluie. Pour s'en dispenser, il se faisait admettre par ses grimaces à l'infirmerie, où il se pelotonnait sous ses couvertures comme un boa dans une vitrine de muséum. Mais il avait un jarret d'acier pour sauter par-dessus les murs de l'établissement et courir acheter à l'autre bout de la ville du rhum avec lequel on faisait un punch la nuit dans le dortoir. Il prit ses études en douceur, fit sur ses cahiers le portrait de tous ses maîtres, passa en rhétorique, n'y apprit rien, y oublia tout, fut expédié à Paris et confié aux soins de M. Godel à Terrasse. Or, M. Sainte-Lucie était en mer depuis 3 semaines, et le précepteur avait déjà commencé son œuvre pédagogique en promenant son élève sur des impériales d'omnibus du boulevard Saint-Michel au but Montmartre et de la Madeleine à la Bastille. Puis il avait disparu pendant 8 jours. Rémy, installé par Labanne sous les toits d'un fort bon hôtel de la rue des Feuillantines, se levait à midi, s'en allait déjeuner, se promenait au soleil en contemplant, par un reste de génie sauvage, les verres étalés aux devantures des boutiques, et vers 5 heures, buvait à petite gorgée son vermouth gommé. Il avait un peu oublié son précepteur, absent depuis 8 jours, quand, le matin du 9e, il reçut par télégramme de M. Godet la Terrasse, rendez-vous pour 2 heures sur le pont des Saints-Pères. Il gelait ce jour-là et une bise très âpre soufflait sur la Seine. Rémy, abrité côte à côte avec un gardien de Paris contre le soubassement de fonte d'une des 4 statues de plâtre, faisait le gros dos et, dans son ennui, allongeait parfois le cou pour voir décharger sur le pont Saint-Nicolas une cargaison de cornes de bœufs. Il attendait depuis 1/2 heure et se disposait à gagner le café le plus proche, quand M. Godet la Terrasse, débouchant du guichet du Louvre, apparut un portefeuille sous le bras. « Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui, dit-il à Rémy, pour acheter avec vous les livres fondamentaux. Bon, je ne m'inquiète pas des Virgiles et des Cicéron dont vous pourrez avoir besoin et que vous trouverez sans peine chez les bouquinistes de la rue Cujas. Je ne veux m'occuper que des livres importants, d'après lesquels vous formerez votre conscience d'homme et de citoyen. » Ils atteignirent bientôt le quai Voltaire et entrèrent dans une boutique de librairie. « Avez-vous des ouvrages de Proudhon, de Quinet, de Cabet et d'Esquiros ?» demanda M. Godet la Terrasse. Le libraire avait ces ouvrages-là. Il en fit, sous les yeux même des acheteurs, un paquet que Sainte-Lucie voyait avec stupéfaction monter comme une tour. « Monsieur, dit-il candidement au libraire, qui déjà croisait les ficelles, « monsieur, ajoutez donc au ballot 2 ou 3 romans de Paul de Kock. J'en ai commencé un à Nantes qui m'a bien amusé, mais mon maître d'études me l'a pris. » Le libraire répondit d'un ton digne qu'il ne tenait pas de roman, et il se disposait à nouer les ficelles, quand M. Godet la Terrasse l'arrêta. Il avait réfléchi. Il empruntait à son élève les 2 premiers volumes de l'Histoire de France de Michelet pour y faire une recherche. Ils se donnèrent une poignée de main sur le trottoir, puis M. Godet la Terrasse s'écria en grimpant sur son omnibus « Piochez le Quinet ce soir, hardi !» Un instant, sa silhouette noire domina l'impériale, puis elle se confondit avec les profils des hommes ordinaires qui voyageaient assis sur la double banquette. Le soir était venu. Rémy, peu disposé à regagner sa chambre où les livres fondamentaux devaient l'attendre, s'achemina sur le boulevard Saint-Michel vers Bullier. Il atteignait déjà la porte mauresque du bal public où des étudiants, des commis de magasins et des filles entraient en foule devant un demi-cercle d'ouvriers et d'ouvrières attentifs, quand il aperçut de l'autre côté de la chaussée, sous un réverbère, la barbe d'or de la Banne. Malgré le givre qui poudroyait les arbres et le vent qui fouettait la flamme du gaz, le sculpteur lisait un article de journal. Sainte-Lucie s'approcha du liseur. « Excusez-moi de vous interrompre, dit-il, car ce que vous lisez doit être bien intéressant. »«
Oh, pas du tout, répondit la Banne, en mettant le journal dans sa poche. « Je lisais machinalement quelque chose d'assez bête. Venez-vous avec moi au Chat Maigre ?»
Ils s'arrêtèrent dans l'endroit le plus resserré, le plus gras, le plus noir, le plus fumeux et le plus nauséabond de la rue Saint-Jacques, et entrèrent dans une boutique couverte de petites tables et dont le fond était formé par un châssis vitré étendu de rideaux blancs. Sur les murs, sur le châssis, sur le plafond même, il y avait des peintures. C'étaient pour la plupart des esquisses heurtées et violentes, dont les tons vifs papillotaient sous le scintillement de deux becs de gaz, dans une épaisse atmosphère de fumée de pipe. Sainte-Lucie, qui aimait beaucoup les images, remarqua en entrant les toiles les plus voyantes, un corbeau dans la neige, une vieille femme nue, la tête en bas, un aloyau de bœuf dans un journal, et surtout un chat de gouttière, découpant entre le tuyau de cheminée sur la lune énorme et rousse sa maigre silhouette noire arquée comme un pont du Moyen-Âge. Cette œuvre d'un jeune maître impressionniste servait d'enseigne à l'établissement. Des jeunes gens buvaient et fumaient autour des tables. Une petite femme grasse, coiffée avec soin et dont le tablier blanc à bavette se gonflait comme une voile, regarda la Banne avec la vivacité tendre de ses yeux dans lesquels quelques grains de poudre à canon semblaient pétiller sans cesse. Elle réclama au sculpteur le chat de terre cuite qu'il avait promis d'offrir pour être mis à l'aventure entre les plats de choucroute et les saladiers de pruneaux. Bon, « je songe à votre matou, ô nourrissante Virginie, répondit la Banne, mais je ne le vois pas encore assez maigre et assez famélique. D'ailleurs, je n'ai encore lu que 5 ou 6 volumes sur les chats. » Virginie, résignée à une longue attente, assura la Banne qu'il était bien aimable d'amener un nouvel ami, dit que M. Mercier et M. Dion étaient là et disparut derrière le châssis vitré dans le voisinage d'une fontaine, car on entendit bientôt rincer des verres. Les nouveaux venus s'assirent devant une table déjà occupée par 2 buveurs auquel Sainte-Lucie fut aussitôt présentée. Le créole sut bientôt que M. Dion, très jeune, mince et blond, était poète lyrique, et que M. Mercier, petit, noir, le nez chaussé de lunettes, était quelque chose de très vague et de très important. Il faisait chaud dans la brasserie, et Sainte-Lucie, se sentant tout à son aise, sourit et sa grosse bouche s'épanouit, tandis que Virginie, l'observant de son œil offensif à travers la cloison, le trouvait très beau et très distingué, en admirait ses joues mâles et claires, semblables au métal des casseroles qu'elle récurait si bien. Comme les amoureuses qui vieillissent, Virginie était très propre. Le poète Dion demanda à la Banne, avec une douceur en même temps fade et aigrie, ce que devenait l'évêque Gosselin. On parlait beaucoup, en effet, depuis quelque temps, au Chat Maigre, d'une statue de l'évêque Gosselin, commandée, disait-on, au sculpteur Labanne pour une des niches du nouvel hôtel de ville. Labanne admettait sans preuve que la commande lui était donnée, mais il ne voyait pas l'évêque Gosselin debout dans une niche. Il ne le voyait qu'assis dans sa chaire épiscopale. Sainte-Lucie but un verre de bière. « Vous savez, dit le jeune Dion, que nous fondons une revue. Mercier m'a promis un article, n'est-ce pas, Mercier? Vous nous ferez des beaux-arts, vous, la Banne. Monsieur Sainte-Lucie, j'espère que vous nous donnerez aussi quelque chose.
Nous comptons sur vous pour la question coloniale. » Sainte Lucie, qui avait vu tant de choses, ne s'étonnait pas. Il buvait, il avait chaud, il était heureux. « Je suis désolé de ne pas pouvoir vous rendre le service que vous me demandez, » répondit-il. « Mais je viens de Nantes, où j'étais en pension, et je ne suis pas au courant de la question coloniale. D'ailleurs, je n'écris pas. » Dion fut stupéfait. Il ne comprenait pas qu'on pût ne pas écrire. Mais il songea que les créoles étaient des gens étranges. « Pour moi, dit-il, je donnerai dans le premier numéro mon amour fauve. Vous connaissez mon amour fauve ? Très vieux, ployé, flétri par d'anciennes détresses, je veux errer sans fin dans la nuit de tes tresses. » « C'est vous qui avez fait cela ? » s'écria Sainte Lucie avec un enthousiasme sincère. « Mais c'est très beau !» Et il vida sa chope. Il était ravi. « Mais avez-vous des fonds pour votre revue ?» demanda le sceptique Labanne. « Oh, certainement, répondit le poète. Ma grand-mère m'a donné 300 francs. » Labanne était réduit au silence. D'ailleurs, il feuilletait quelques bouquins qu'il avait achetés dans la journée sur les étalages des parapets. « Ce volume est très curieux, disait-il en contemplant un petit livre à tranches rouges. C'est un traité de Saumaise. Salmasius sur l'usure, Deus Uris, je le donnerai à Branchu. » Alors on songea que Branchu n'était pas venu ce soir au Chat Maigre. « Comment va-t-il, ce pauvre Branchu du Tic ?» demanda le poète Dion. « Tombe-t-il encore aux pieds des princesses russes ? Il faut qu'il nous donne un article pour la revue. » Sainte Lucie demanda à Labanne si ce monsieur Branchu du Tic était bien le professeur de littérature dont il avait été question un jour au Grand Hôtel. « Celui-là même, jeune homme, dit Labanne. Vous le verrez. Sachez qu'il s'appelle simplement Claude Branchu. Son nez, fort long d'ailleurs, est agité de frissons nerveux et affecté d'un mouvement ondulatoire des plus étranges. De là le surnom que nous lui avons donné. » D'ailleurs, Caton du Tic et Branchu du Tic sont de stoïciens. « Monsieur Sainte-Lucie, dit le poète, je vais vous lire mes vers pour que vous me puissiez faire toutes les critiques avant l'impression. »« Non, non !» s'écria Mercier, dont le petit visage rond se contracta sous ses lunettes. « Vous lui direz vos vers quand vous serez seul. » Alors la conversation s'engagea sur l'esthétique. Dion considérait la poésie comme la langue naturelle et primordiale. Mercier répondit avec aigreur, « Ce n'est pas le vers, c'est le cri qui est la langue primitive et naturelle. Les premiers hommes ne se sont pas écriés, « Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel. » Ils disaient, « Ouh, 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 ma, 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 quick !» D'ailleurs, êtes-vous mathématicien ? Non. Eh bien, est-il utile de discuter avec nous ? Je discute qu'avec un adversaire qui sait la méthode mathématique. » Labanne affirma que la poésie était une monstruosité sublime, une maladie magnifique. Pour lui, un beau poème était un beau crime, rien d'autre chose. « Permettez, répliqua Mercier en ajustant ses lunettes. Jusqu'où avez-vous poussé l'analyse mathématique ? Je verrai d'après vos réponses si je puis argumenter avec vous. » Sainte Lucie se disait en vidant une nouvelle chope, « Mes nouveaux amis sont très singuliers, mais très agréables. » Toutefois, comme il ne comprenait littéralement rien à la discussion qui devenait très vive, il abandonna le fil embrouillé des discours et promena sur la salle des regards naïfs et hardis. Il aperçut, contre la porte vitrée du châssis, les yeux chargés d'amour que la grosse Virginie fixait sur lui en essuyant ses mains rouges. Il songea, « C'est une femme très agréable. » Ayant bu un nouveau bock, il se confirma dans cette idée, dans cette sensation. La brasserie s'était vidée peu à peu. Les fondateurs de la revue restaient seuls autour des soucoupes qui s'élevaient sur la table en deux piles semblables à deux tours de porcelaine dans une ville chinoise. Virginie se préparait à abaisser les lames de tôle de la devanture, quand la porte s'ouvrit pour laisser entrer un long personnage blême, vêtu d'une très courte jaquette d'été dont il avait relevé le collet. Il projetait en avant de lui des pieds énormes, plats et lamentablement chaussés. « C'est Branchu !» s'écria le comité. « Comment vous portez-vous, Branchu ?» Mais Branchu restait sombre. « Labanne, dit-il, vous avez emporté par mégarde, j'aime à le croire, la clé de votre atelier, et faute de vous rencontrer en ce lieu, j'eusse indubitablement passer la nuit dehors. » Branchu parlait avec une élégance cicéronienne. Tandis que, possédé d'un tic nerveux, il roulait des yeux terribles et remuait le nez de la racine aux ailes, il faisait couler de sa bouche des sons doux et purs. Labanne donna sa clé et s'excusa. Mais Branchu ne voulut boire ni bière, ni café, ni cognac, ni chartreuse. Il ne voulut rien boire. Dior lui ayant demandé un article pour sa revue, le moraliste se fit longtemps prier. « Prenez, dit Labanne, son commentaire du Phédon, qui est écrit tout au long au fusain sur le mur de mon atelier. Vous le ferez copier, à moins que vous ne préfériez porter mon mur chez l'imprimeur. » Branchu promit l'article quand on cessa de le lui demander. Ben, « sera, dit-il, une étude d'un genre particulier sur les philosophes. » Il toussa de l'atout des orateurs, prit un verre vide, le posa devant lui et poursuivit lentement. « Voici mon point de vue. Il y a deux sortes de philosophes, ceux qui se placent derrière ma chope comme Hegel et ceux qui se placent entre ma chope et moi comme Kant. Vous comprenez le point de vue ?» Dior comprenait le point de vue. Branchu put continuer. Quand, dit-il, un philosophe est derrière ma chope, savez-vous ce que je fais ? À ce moment, ayant baissé un des becs de gaz et éteint l'autre, Virginie avertit ces messieurs qu'il était minuit et demi et qu'il fallait sortir. Branchu, Mercier et Labanne passèrent l'un après l'autre en se courbant sous la fermeture déjà abaissée. Sainte-Lucie, restée seule dans la boutique obscure, saisit Virginie par la taille et lui donna trois ou quatre baisers au petit bonheur sur le cou et sur l'oreille. Virginie résista un moment, puis elle se répandit et se fondit dans les bras du mulâtre. Cependant, Branchu sur le trottoir, disait à Labanne, « Est-ce ma chope que je prendrais pour la mettre derrière le philosophe ? Non ! Est-ce le philosophe que je prendrais pour... « Vous ne venez donc pas, Sainte-Lucie ?» criait le poète Dion, qui comptait réciter au créole des vers tout le long du chemin. Mais Sainte-Lucie ne répondit pas.